Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique podcast, bonne écoute et belle découverte.
La vérité sur l'affaire des trois petits cochons de Yon Sieska et Lane Smith, publié chez Nathan en 1991 et traduit de l'américain par Gilles Lergen. Un album certes déjà ancien, souvent réédité. Un album certes fréquemment exploité par les enseignants. Mais un album tellement drôle et intelligent qu'il faut le faire connaître à tous les enfants. Ils se régaleront et vous vous régalerez avec eux. La couverture donne le ton immédiatement. Elle nous incite à considérer cette histoire comme un témoignage recueilli par Yon Sieska et publié dans la Gazette du Loup. Le témoignage de L.E. Loup, Léonard Eugène Loup. Tout y est pour nous faire comprendre qu'on est dans quelque chose de sérieux. Un procès relayé par la presse. D'entrée, l'objectif est très clair. Évidemment, vous connaissez l'histoire des trois petits cochons. Les enfants acquiescent, bien sûr, en confiance. Certains même, quand je la propose à des grands de CE2 ou CM, se demandent pourquoi je leur lis ce conte archi-connu et plutôt destiné aux petits. Mais tout de suite, la mise en garde suit. Évidemment, vous connaissez l'histoire des trois petits cochons, ou du moins, c'est ce que vous croyez. Mais je vais vous donner un bon tuyau. Personne ne connaît la vérité parce que personne n'a entendu ma version de l'histoire. Et le récit de Lou commence. Ça remonte à une époque, à l'époque d'Il était une fois. Ce jour-là, je préparais un gâteau d'anniversaire pour ma vieille grand-maman chérie. J'avais un rhume carabiné et le paquet de sucre était fini. Alors, j'ai descendu la rue pour demander un peu de sucre au voisin. Seulement ce voisin, c'était un cochon. Et pas très malin avec ça. Il avait construit toute sa maison en paille. Incroyable, non? Je vous le demande, qui aurait l'idée de construire une maison en paille? Enfin, bon, forcément. Dès que j'ai frappé, la porte s'est écroulée à l'intérieur. Mais je ne voulais pas rentrer comme ça chez quelqu'un. Alors j'ai appelé. « petit cochon, tu es là ?» Pas de réponse. Je m'apprêtais à retourner tranquillement chez moi, sans le sucre, pour le gâteau d'anniversaire de ma vieille grand-maman chérie. Et c'est à ce moment-là que mon nez s'est mis à me démanger. J'ai senti que j'allais éternuer, alors j'ai soufflé, et j'ai éternué un bon coup. Et vous savez quoi? Toute cette sacrée maison de paille s'est écroulée, et au beau milieu du tas de paille, j'ai vu le premier petit cochon, mort comme une bûche. Il était là depuis le début. Ça aurait été trop bête de laisser une belle assiette de charcuterie comme ça sur la paille. Alors j'ai tout mangé. Imaginez-le comme un gros hamburger tout chaud à portée de main. Et voilà. C'est donc le conte revu et corrigé par changement de narrateur. Ce n'est plus la version des trois petits cochons. Ce n'est pas non plus la version d'un narrateur externe, non. C'est le loup lui-même qui révèle enfin la vérité sur cette sombre histoire qui s'achève sur une terrible erreur judiciaire. Car enfin, que s'est-il vraiment passé quand le loup attendait devant la porte de chaque petit cochon? Est-il vraiment l'auteur d'une terrible boucherie? Ou la victime d'une série de malentendus organisés par la presse? Et en effet, c'est dans sa prison que les deux journalistes sont allés interviewer le loup. Tout est jubilatoire dans cet album. La mauvaise foi du loup qui essaie par tous les moyens de nous faire croire à son point de vue, mais aussi les illustrations qui servent admirablement le texte, riches en détails et en clins d'œil. Le portrait de la grand-mère, probablement dans le lit de celle du petit chaperon rouge. Les oreilles de lapin qui dépassent du plat dans lequel le loup prépare la pâte du gâteau. La fin est surprenante et très drôle, elle aussi. Ne vous en privez pas.
La comédie des ogres, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Fred Bernard et François Roca sont complices depuis toujours, c'est-à-dire depuis leur rencontre en 1990 sur les bancs de l'école Émile Cole à Lyon. Et ils continuent de nous enchanter par leur inventivité, leur capacité à visiter des thèmes généralement peu abordés ou à renouveler les plus éculés. Cet album est construit comme une pièce de théâtre, en trois actes. Mais il s'apparente aussi au conte, à qui il emprunte des personnages, comme ce couple d'ogres, parents d'un capricieux ogrillon nommé Vermeer. Ce prénom est parmi d'autres un clin d'œil au peintre que les auteurs chérissent. Ça tombe bien, nous sommes dans une famille d'ogres peintres. Acte premier, scène première. Goya, l'ogre. Cézanne, l'ogresse. Et de deux, et de trois. La voix énorme de Goya résonne dans cette forêt d'un autre âge. Une chouette curieuse vient se poser sur une branche afin d'observer ce qui se trame ici-bas. « Qu'est-ce que tu fabriques encore au lieu de peindre ?» demande Cézanne. « Ah, je dois agrandir la maison. Vermeer pousse à vue d'œil. Il a pris 40 cm ce mois-ci. »« Oui, et il vient de faire sa 73e dent. Et sais-tu ce que le loup mettra sur l'oreiller de notre petit cette fois-ci » ajoute Cézanne. « Oh, après la hache magique, le couteau en corne de licorne, les bottes en peau de baleine, non, je vois pas vraiment. » Vermeer souhaite que le loup lui offre un petit... Cézanne hésite. « Eh bien, Cézanne, » fait le père en fronçant les sourcils, « un petit quoi ?»« Un enfant, » lâche la mère, « un petit d'homme. » Cézanne, la mère ogre, va supplier son mari qui cédera au dernier caprice de leur fils. Il lui fera livrer dans une cage un jeune garçon. Mais rassurez-vous, cet ogrillon à la bouche pleine de dents n'en est pas pour autant un dévoreur d'enfants. Vermeer va surprendre le petit homme en lui apprenant que les ogres n'ont jamais mangé les humains et que, pire, ils les fuient. C'est pourquoi ils ne sortent plus de la forêt, pas plus qu'ils ne s'aventurent du côté du soleil levant. Dès lors, nous entrons en terre inconnue, loin de nos schémas hérités de la tradition, pour découvrir un poétique plaidoyer en faveur des discriminés des légendes et assister à la naissance d'une amitié inattendue. Au fil de leurs échanges, Vermeer et Paul, son humain captif, mais rusé, se livrent à quelques confidences. Paul va comprendre que l'ogre a un rêve, voir la mer. Acte 1, scène 4. Vermeer, l'ogrillon. Paul, le garçon. La chouette sent que Paul va défier Vermeer et visiblement ça l'intéresse. Vermeer, tu sais, le chant de la mer, je l'ai dans ma poche. Vermeer boude, bras croisés, perplexe. Bah, c'est pas possible. Paul sort un coquillage de sa poche. Il le porte à son oreille et dit doucement. Ah, il est doux le chant de la mer, plus beau encore que celui du vent dans les arbres. Vermeer se déride. Il s'approche et il s'excite subitement. Ah, fais voir, donne-moi ça. Hé hé hé, pas question, c'est mon porte-bonheur. Ou alors, à une condition, tu me laisses rentrer chez moi, Vermeer? Et Paul va jouer là, en quelque sorte, son va-tou. Tiens, Vermeer, écoute d'abord. C'est un coquillage, il vient du fond de la mer. Avec douceur et fébrilité, Vermeer porte le coquillage à son oreille. Il écoute encore. Son visage s'apaise. Il sourit et verse une larme. « Je veux y aller !»« Quand tu veux, Vermeer !» Toutes les illustrations de François Roca sont offertes en pleine page, alternant avec le texte comme autant de tableaux très travaillés, à la fois réalistes et propices à la rêverie. Les couleurs, les volumes varient harmonieusement et l'artiste joue avec la lumière. Il nous surprend avec des gros plans qui nous sautent au visage. Nous arrivons à l'acte 2, guidé par la petite chouette dont l'apparition introduit chaque scène depuis le début de l'histoire. On découvre Vermeer, enchaîné, sur un chariot tiré par des bœufs. Tout autour, des hommes en armes. Une ellipse temporelle nous amène à déduire que le plan de Paul pour entraîner Vermeer jusqu'à la mer et par la même occasion se libérer lui-même a échoué. Cette fois, c'est l'ogrillon qui est mis en cage. Le père de Paul veut l'offrir au musée des curiosités. Paul et sa petite sœur Lou vont réussir à se faufiler dans le château fort où est enfermé l'Ogrillon. Ils y découvrent toutes sortes de créatures prisonnières qui nous sont devenues familières, puisqu'elles hantent certains contes et légendes. Enfin, ils retrouvent Vermeer, emprisonné dans une tour qui surplombe la mer. Il écoute la mer, il la contemple. Paul, tout ému, se précipite. « Vermeer, je suis là. J'ai parlé au Seigneur. Il ne veut rien savoir, mais il dit que tu es la plus belle pièce de sa collection. » « Ah, c'est horrible, Paul. Tout le monde vient me voir comme une bête curieuse. Ils disent que je suis un mangeur d'enfants. Mais moi, j'ai jamais voulu te manger, Paul. Mon père m'avait prévenu. Tous les hommes pensent ça, alors que les ogres passent leur temps à peindre. Moi aussi, je pensais que tu me mangerais, dit Paul. C'est ce que les parents disent à leurs enfants. Écoute-moi et calme-toi, Vermeer. Je te présente ma petite sœur, Lou. Enchantée. Mais, Paul... Tu leur diras que seuls des ogres fous ou malades ont peut-être fait ça il y a longtemps. Mais dis-leur que maintenant c'est fini. Dis-leur que je veux rentrer peindre avec mes parents. À l'acte 3, la 74e dent de Vermeer vient de pousser. Une nouvelle fois, Paul s'introduit dans le château. Il est déterminé. Il apporte à Vermeer un paquet cadeau et la clé des champs. Dans leur fuite, ils entraîneront tout ce peuple de monstres maudits qui symbolisent peut-être autant de préjugés, d'exclusions, de discriminations séculaires. C'est avec douceur et même poésie que l'auteur veut bousculer ici certaines fausses représentations en inversant les rôles et en présentant des ogres moins cruels que les humains. Entre cet enfant courageux et cet ogre artiste naît une amitié aussi évidente qu'inattendue, porteuse de belles promesses. La dernière scène s'ouvre en même temps que les paupières de la chouette postée sur le vieux chêne. Vermeer arrive, essoufflé, il sourit et sort le paquet de sa poche. À son tour, la chouette sourit. Elle est le cadeau que Vermeer avait reçu de ses parents pour sa première dent. Et vous découvrirez avec elle le cadeau que lui offre Paul pour sa 74e dent.
Thème Radio.
Thème Radio, la plus locale des stations auboises.